direct, podcast, programme, actu. Pour ne rien laisser passer, téléchargez gratuitement l'appli Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store.
Yes, téléchargez-la, je vous le dis, elle m'a coûté une blinde. Pour vous, c'est gratuit, profitez-en, mais c'est surtout l'occasion d'avoir le lien direct avec l'émission. Avant de recevoir François Louange pour parler du dossier OVNI, place à l'agenda avec Julie. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc?
Eh bien, ce week-end, vous avez le choix, il y a deux conférences. Lionel Del sera à Tours avec l'association Tolérance, Connaissance et Partage. Et Paul Ponceau, quant à lui, sera à Paris pour une conférence intitulée « Attention, c'est parti, la mafia médicale, le cartel pharmaceutique, le transhumanisme et la nouvelle médecine germanique yes. ». C'est un beau programme. Organisé par la librairie du bonheur.
C'est où? On sait
c'est à Paris.
D'accord, super.
Enfin, on ne cessera jamais de vous en parler. C'est lundi prochain que sort le film Sirius. Nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. C'est tout ce que le docteur Stephen Greer veut prouver ici à grand renfort d'interviews et d'images exclusives. Très documenté, il le conçoit comme faisant partie d'un énorme projet de divulgation au monde entier. On vous a mis la bande-annonce sur le Facebook de l'émission.
Alors, pour aller voir Paul Ponceau, c'est rue Bréa dans le 6e arrondissement. Mmh. C'est la librairie du bonheur, hein, c'est ça?
C'est ça.
Magnifique.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Où que l'on soit sur la planète, allongé dans l'herbe, personne en regardant le ciel ne peut imaginer que nous soyons seuls dans l'univers. Devant tant de beauté, devant tant d'étoiles, de voies lactées, au fond de nous, nous espérons tous voir passer autre chose qu'un avion, un ballon sonde, un satellite. C'est ce que l'on appelle depuis bien longtemps des objets volants non identifiés. Ces objets volants non identifiés, ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, intriguent, inquiètent, mais avant tout passionnent. C'est bien pour cela que ce dossier est ouvert tous les soirs dans cette émission. Et pour continuer la discussion et la recherche, François Louange avec nous. Bonsoir François.
Bonsoir.
Ingénieur en aéronautique, vous avez travaillé à l'Agence spatiale européenne. Vous vous intéressez depuis 40 ans au phénomène OVNI. Vous cherchez à impliquer des scientifiques dans la recherche. Vous avez coopéré avec le GEPAN. Justement, alors, quand je vois que vous cherchez à impliquer des scientifiques dans la recherche, est-ce que vous avez réussi?
C'est assez compliqué.
Oui.
Je pense que c'est quelque chose d'assez important, mais il ne faut pas se méprendre quand on dit qu'il faut impliquer les scientifiques dans la recherche. Et quand je dis qu'il faut qu'il y ait des recherches à caractère officiel,
oui.
C'est pas du tout pour dire que les gens officiels et les gens pleins de diplômes, etc., sont nécessairement plus malins que
les autres,
que des amateurs éclairés et autres. C'est pas du tout ça. C'est parce que quand on est devant un problème aussi compliqué que les ovnis, et Dieu sait que c'est compliqué, parce que ça fait 60 ans qu'on parle de ce truc-là, et pour être très honnête et résumer tout, on n'a pas progressé depuis 60 ans, enfin, trois fois rien. Donc quand on a un problème aussi compliqué que ça, ce qu'il faut, c'est énormément de temps, de détermination et de constance. Bon, faire un travail sur un plan privé, ça peut être extrêmement noble, extrêmement intense quelquefois, mais ça peut pas forcément durer. Si quelqu'un travaille sur son temps libre et en fonction de sa vie de famille, ça peut pas durer forcément longtemps. Or, si vous avez un organisme qui prend en charge quelque chose, bon, c'est une locomotive, ça avance et ça fonce.
Donc, mais on l'a cet organisme, c'est le GEPAN.
Oui, on l'a, mais c'est pour ça. Moi, vous avez parlé de 40 ans. Il y a 40 ans, quand j'ai démarré, je me suis branché sur ce sujet parce que j'ai eu la chance de faire des bonnes lectures et de trouver qu'il y avait vraiment un problème à résoudre et que ça valait la peine de s'y mettre. Mmh. Je me suis dit, je travaillais à l'époque à l'agence spatiale, il faut absolument qu'un organisme s'y mette. Et je finis en disant la deuxième raison pour laquelle faut qu'il y ait un caractère officiel, c'est que, étant donné les différents canaux par lesquels arrivent les infos, et que la plupart du temps ça arrive par des canaux du genre gendarmerie, pilote civil, pilote militaire, etc., il faut forcément qu'on puisse avoir des relations un petit peu fortes et officielles pour bénéficier de certains renseignements. Un privé qui va réclamer au service militaire qui s'occupe de la surveillance radar du territoire des documents qui sont classifiés ne les aura jamais, alors qu'un organisme qui est habilité à le faire pourra les avoir. Donc il faut vraiment qu'on puisse travailler d'une façon sérieuse, organisée, et qu'il y ait au moins une locomotive ou des locomotives officielles sur ce truc-là.
Bon, et malgré tout, il y a un organisme officiel. On a été le premier pays au monde à s'en doter quand même.
Absolument.
C'est important de le signaler. Et malgré tout, on recevait Xavier Passot il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
C'est un tout petit budget quand même.
Oui, c'est un petit budget, mais je pense pas que la question soit d'avoir un énorme budget. Cela dit, le budget du GEPAN, c'est pas moi qui vais le critiquer, puisque j'avais suggéré ce budget-là lorsque j'avais réalisé l'audit qui a permis de recréer le GEPAN il y a un certain nombre d'années. Il faut savoir de quoi on parle quand on fait une recherche pour laquelle on n'a pas une grande stratégie à très long terme avec beaucoup de choses en tête, c'est pas la peine de dépenser des milliards, on n'avancerait pas plus vite. Il faut commencer par faire quelque chose de structuré. Je vais vous dire une autre chose, le problème des ovnis par opposition à d'autres problèmes qui apparemment sont proches et en fait sont très éloignés du genre SETI et tout ça, c'est qu'on est dans le pluridisciplinaire le plus total. Donc la chose la plus absurde serait de dire je crée un organisme, même officiel, peu importe, et tous les savoir-faire, on va les réunir dans cet organisme. C'est absolument impossible, puisque une fois il va falloir traiter d'interactions entre des végétaux et des ondes magnétiques, une autre fois il va falloir faire de l'analyse d'image, une autre fois il va falloir faire des analyses médicales, ensuite il va falloir travailler sur des radars. C'est quelque chose qui part dans tous les sens.
Bah oui, mais est-ce qu'ils en ont les moyens justement de...
Justement pas. Le GEPAN n'est pas, et c'est pas sa vocation, un organisme de recherche destiné à faire lui-même des recherches sur ce qu'il trouve.
Bah finalement, donc on peut jamais avoir le fin mot de l'histoire.
Ben, il faudra essayer de l'avoir un jour. Mais la première chose, c'est de... Vous savez, faut être modeste. Je vous dis, ça fait 60 ans qu'on pédale dans la farine. Il faut, lorsqu'on est dans une science dite d'observation, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de reproduire en laboratoire ce qu'on étudie, ben, il faut observer. Observer, c'est collationner beaucoup d'informations avec le plus de précision possible. La classifier, essayer de déterminer les caractéristiques, etc. Et ce n'est qu'après, quand on a pu trouver un certain nombre de choses communes entre des phénomènes qu'on a vus à droite et à gauche, qu'on va pouvoir éventuellement se dire tiens, il faudrait étudier tel ou tel modèle ou tel mode de propulsion possible, choses comme ça. Et à ce moment, on se lance dans une recherche. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir activer le bon laboratoire et non pas tout faire soi-même. L'organisme actuellement en place, le GIPAN, a un avantage, c'est qu'il est patronné par un comité de pilotage avec des gens des plus grandes autorités scientifiques, militaires, etc. de France. Et si une bonne idée remonte sur un thème de recherche, cette recherche va être envoyée à cet endroit-là.
Alors, vous l'aurez compris, ce soir, dans Bob vous dit toute la vérité, nous parlons des ovnis.
L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls ? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
François Louange est avec moi. François, nous parlons du GIPAN. C'est normal, on ne peut pas faire autre chose que d'en parler, puisque vous avez été un petit peu aussi là lors de l'audit, parce qu'il fallait l'auditer, ce GIPAN. Vous avez un petit peu dit comment il fallait le construire, en tout cas l'organiser. Malgré tout, vous me dites que ça fait 60 ans que finalement on n'a pas avancé. Il n'y a pas beaucoup de budget sur GEPAN. Et on voit bien, même sur le site, c'est affiché, 23% ou 22, je ne sais plus, 22 ou 23% de cas sont dits phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mais il y a quand même 40% où Xavier Passot me disait finalement on n'a pas poussé l'investigation, on n'est pas allé plus loin, on n'a pas eu les ressources pour. Voilà. Donc finalement, ça ne fait pas 23 de non identifiés, ça en fait 6%, quelque chose comme ça.
Donc
c'est énorme. Donc quand même, mine de rien, on a aujourd'hui un ciel français qui est survolé par 63% de choses qui ont été signalées, mais on ne sait pas ce que c'est.
Oui, enfin, c'est une façon de voir les choses. Les pourcentages, bon, on peut déjà parler de ça, les pourcentages, déjà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que c'est les pourcentages parmi les choses qui nous sont revenues.
Oui.
Je vais peut-être vous étonner, mais en réalité, je suis intimement persuadé, depuis le temps que je travaille là-dessus, qu'il y a énormément plus d'événements, j'entends par événements, que des gens aient sincèrement cru voir des choses qu'ils n'ont pas comprises. Je ne dis pas qu'il y a forcément des extraterrestres derrière. Il y a beaucoup plus d'événements réellement que ceux qui nous reviennent. Pour des raisons évidentes, c'est que les gens ne vont pas spontanément toujours parler de ce qu'ils ont vu, surtout s'ils ont des positions sociales ou des métiers du genre pilote et autres, où ils risquent de se faire bannir ou de se faire fiche de leur tronche parce qu'ils ont parlé de choses comme ça.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites.
Les pourcentages, c'est très intéressant. Si ça vous intéresse, je peux aller un petit peu plus loin. J'avais eu la chance, en 1977, je crois, d'être invité par Alan Hynek, qui est un de nos grands-pères en matière de recherche sur les ovnis. Bon, j'étais en mission aux États-Unis, il m'a invité chez lui à passer 24 heures. On a discuté d'un tas de choses, c'était passionnant. Et surtout, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, écoutez, je vous dis un truc, faites ce que moi j'ai fait aux États-Unis. Et je l'ai fait aussitôt en rentrant chez moi. Et chez moi, à l'époque, c'était à Madrid, en Espagne, puisque je travaillais à l'agence spatiale à Madrid. Vous prenez un journal très sérieux, vous mettez dedans une petite annonce tout à fait terne, pas du tout folklorique, qui dit, en gros, les ovnis, quelques scientifiques font des études sur cette question, on serait extrêmement reconnaissant à des personnes ayant eu des expériences de les contacter, discrétion totale garantie. Et l'avantage de cette manip, c'est extraordinaire, c'est que On va toucher des gens qui ont quelque chose à raconter et on ne va pas du tout toucher cette population assez nombreuse de gens qui ne cherchent qu'une chose, c'est faire parler d'eux, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, c'est pas blâmable. Mais à partir du moment où vous dites on parlera jamais de vous, bon, celui qui veut se faire mousser, il viendra pas là. Et quand on fait ça, et je l'ai fait, malheureusement pas assez souvent parce que j'ai pas le temps et comme tout le monde faut croûter et travailler, eh bien on s'aperçoit qu'on lève des tas de choses, on rencontre des gens et quelquefois des gens très haut placés, j'ai rencontré des hommes politiques, j'ai rencontré des gens tout à fait étonnants qui avaient sur la patate quelque chose depuis très longtemps. Encore une fois, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est une autre question, mais en tout cas qui très sincèrement ont vécu ces choses-là et qui n'en parlaient pas. Donc les pourcentages, bon, moi personnellement, les pourcentages, les études statistiques sur les vagues et tout, ça me laisse un peu froid parce que je pense qu'on ne touche qu'une toute petite partie de ce que...
Bien sûr, enfin, mais malgré tout, c'est quand même ceux qui sont marqués.
Dans ce que vous avez dit, vous avez parlé implicitement des deux catégories qu'il y a au GEPA, la catégorie D, c'est-à-dire les non-inexpliqués, ceux qui nous intéressent, in fine, les 23%, et puis les autres. Alors les autres, c'est pas contrairement à ce que vous venez de dire, parce qu'on n'a pas les moyens, c'est parce qu'on n'a pas d'éléments d'information. Quand vous n'avez pas d'information, vous pouvez avoir 3 milliards sous la main, vous n'avancerez pas. Si vous avez quelqu'un qui, de bonne foi, vous dit « j'ai vu une lumière verte avec un point rouge dans mon jardin », et qui vous dit que ça et personne d'autre n'a rien vu, il ne s'agit pas de mettre en doute sa parole, mais vous pouvez dépenser 100 milliards, vous n'avancerez pas dans la recherche sur le sujet. Et les cas en question, les cas de la catégorie dite C, c'est ça. Ce sont des cas pour lesquels, malheureusement, on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas dire qu'on a triomphalement trouvé une bonne explication classique, mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments et on ne peut rien faire.
Bien sûr, alors même si on ne prend pas ces 40% pour argent comptant, j'imagine que dans ces 40%, il y en a quand même quelques-uns qui pourraient nourrir les 23%, mais c'est pas très très important. De toute façon, à 23 ou à 30%, l'important, c'est pas finalement le pourcentage, même si c'est qu'un pour cent et que ce sont des extraterrestres ou des ovnis, ça suffit pour que ça nous intéresse. Mais vous qui avez.
Même si je peux être un peu provocateur dans votre émission, et même s'il n'y avait pas, in fine, je ne dis pas du tout que c'est le cas, mais même s'il devait ne pas y avoir, parmi les choses qu'on observe d'extraterrestres, il pourrait y avoir des trucs complètement. Extraordinaire, mais réellement extraordinaire. Je veux dire, pas un pauvre drone qu'on n'a pas identifié, mais des choses tout à fait étonnantes. Et s'il devait y avoir des choses qui relèvent d'intelligence extérieure au sens large, il est possible aussi, et là ça rejoint un peu des idées que je peux avoir à mes heures de liberté ou qu'ont des gens comme mon ami Jacques Vallée, etc., des choses beaucoup plus compliquées que de simples bons hommes qui viennent de la planète je ne sais quoi avec un véhicule tôt les boulons pour nous visiter. Donc on ne sait pas où on va là de toute façon. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas et que ça justifie des recherches. Ça, j'ai toujours été convaincu.
Oui, parce que c'est ça qui est... Enfin, finalement, quelle que soit la finalité, comme vous le disiez, il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer et c'est ça qui est intéressant. C'est là où...
Un truc ou plusieurs, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je mets un truc au terme générique, enfin, au sens large du terme. Dites-moi, vous qui avez travaillé à l'Agence Spatiale Européenne, vous étiez quand même au cœur du problème, là. C'est-à-dire que l'Agence Spatiale Européenne, on voit le ciel comme... C'est son terrain de jeu, hein, l'Agence Spatiale Européenne. Quel regard, justement, a l'Agence Spatiale Européenne sur le phénomène OVNI ? Est-ce que déjà, c'est évoqué ?
Aucun. Alors, je peux vous dire aucun.
C'est dingue.
Non, mais en plus, bon, les gens qui travaillent sur le spatial n'ont pas le nez dans les étoiles. Je veux dire, quand vous avez des centaines de gens qui travaillent sur la technologie des satellites, ou comme je l'ai fait sur les... Moi, j'ai toujours travaillé dans les systèmes dits SOL, d'ordinateurs, de contrôle de satellites ou de traitement de données. Bon, vous n'êtes pas spécialement en train d'observer le ciel. Bon, il y a quelques personnes qui le font. Vous avez des astronomes au bout qui peuvent le faire si le satellite est astronomique.
Mais... Oui, mais vous êtes en ligne directe. C'est-à-dire que si quelqu'un chez vous observe quelque chose, j'imagine que la vérité, enfin, en tout cas, la rumeur se propage ou l'information se propage.
Oui. Bon, en tout cas, je peux vous dire, pour avoir fait de nombreuses tentatives à une certaine époque, pour justement mobiliser cette agence et faire en sorte... Bon, j'avais en 76 l'idée, ou 75, 76, je sais plus quand j'ai fait ça, de faire quelque chose qui, en réalité, s'est fait en parallèle en France, mais je ne connaissais pas à l'époque Claude Poher et ce qui se passait en France. Je voulais faire quelque chose comme ça, et j'ai beaucoup agité la direction de l'agence spatiale à l'époque, tous les conseillers des différents pays impliqués, etc. Et à part quelques personnes extrêmement ouvertes que j'ai pu rencontrer à droite à gauche, ça n'a jamais pu aboutir, et j'ai dû un peu abandonner cette idée. C'est d'ailleurs un peu aussi pour ça que j'ai quitté l'agence spatiale à une époque pour venir travailler en France et passer une grande partie de mon temps à travailler sur ce qui m'intéresse, à savoir ces phénomènes non expliqués.
Ouais. Alors, à propos de... Alors, on parlait de témoignages. On va être... Claire, on voit ceux qui sont directement impliqués dans l'espace. Donc si vous, vous étiez plutôt au sol, il y en a qui vont là-haut. Il y a pas mal d'astronautes, enfin je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui. Hein, donc moi, je suis une génération qui disait cosmonautes ou astronautes. On a compris que c'était les gens qui allaient dans l'espace. Beaucoup, en fin de carrière, ont plutôt parlé, ont dit avoir vu des choses. Par exemple, là, sur la page Facebook, il y a Alain qui me donne une citation de Claudie Aigneret qui dit, cette citation, je cite, « La Terre doit être avertie ». Alors, après, on peut tout mettre derrière ces citations. C'est comme la fameuse phrase « Je vous confirme que le Père Noël existe bien ». Alors, ça peut être des gags, ça peut être... Et bien sûr, le fantasme nous donne à penser que ça peut être aussi des codes. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Alors, pourquoi ces gens-là attendent la fin de la carrière? Et est-ce qu'on vous les prenez en considération? Parce que là, on n'est plus dans le Gérard qui est sur la route et qui dit avoir vu une boule bleue atterrir dans le champ d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des gens qui ont l'habitude de l'espace.
Bien sûr, mais écoutez, moi je mets pas en doute la parole des gens. La seule chose, c'est que ces gens-là disent, vont vous dire qu'ils ont vu quelque chose. Bon, c'est parfait. Et comme vous le dites, la cause peut être multiple. Hein. Là, je mets pas telle ou telle personne en cause. Ça peut être exactement parce qu'ils disent parce qu'ils ont vu ce qu'ils disent avoir vu. Ça peut être aussi parce qu'ils ont pu avoir une méprise, comme parfois des pilotes extrêmement avertis peuvent un jour se faire avoir par quelque chose qui les confond, alors qu'en réalité, l'explication est plus simple, ça peut être beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Moi, mon but personnel depuis longtemps, c'est d'essayer de travailler sur des dossiers dans lesquels, encore une fois, caractériser, comme on dit un peu en science, caractériser des phénomènes qu'on ne connaît pas, faire des mesures, etc. Alors, le hasard de ma petite carrière personnelle a fait que je me suis orienté vers l'étude des images.
On va en parler, bien sûr, des images.
Mais bon, si vous avez un dossier dans lequel les gens disent qu'ils ont vu des choses, et qu'il y a quelque chose, il y a une matière, soit à faire une classification, soit à faire des recherches plus approfondies, parce qu'il y a un sol à analyser, parce qu'il y a des... à ce moment-là, on peut effectivement lancer un travail. Mmh. Quelqu'un qui a vu quelque chose parce qu'il a eu la chance d'être dans un véhicule spatial à un moment donné, c'est extraordinaire. Bon, s'il ramène une photo, je serais ravi de travailler dessus. Mais si c'est simplement un témoignage, encore une fois, c'est complètement respectable. On tombe dans la catégorie d'avant.
Des photos, des vidéos. Qui ont été postés au nom de la NASA. Alors je sais pas si c'est la NASA qui les a postés, mais au nom de la NASA, montrant des alors je sais pas, c'est pas des vaisseaux, mais des choses, voilà, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il y en a des dizaines sur Internet aujourd'hui. Alors j'imagine que vous, ces vidéos, ces photos, c'est votre pied de les analyser. Vous prenez un vrai plaisir à le faire. Est-ce qu'il vous est arrivé, lorsque vous étudiez ces photos, d'être vraiment qu'on se met devant en disant oula, il y a là c'est vraiment quelque chose, je comprends pas?
Ça arrive souvent, parce que la réalité, c'est que l'immense, enfin disons une grande majorité des photos, savant ou pas savant, on est complètement impuissant devant, et on peut rien en déduire, parce que encore une fois, il s'agit pas d'agiter des équations et des machins dans tous les sens, histoire de faire l'intéressant. S'il n'y a pas d'informations qu'on peut exploiter, si on peut rien dire. Beaucoup de photos sont telles que on peut pas en dire grand chose. Notamment quand vous avez des photos, le problème consiste à analyser des photos dans lesquelles il y a des objets qu'on ne connaît pas par définition. On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Donc déjà, ça pose un énorme problème, c'est le rapport taille-distance. Bon, quand on a une idée de ce qu'est quelque chose, on a tout de suite une estimation, les pilotes ont l'habitude de ça, etc. Bon, si on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas par définition, est-ce qu'il est petit et tout près, grand ou très loin, aucune idée. En plus, si par hasard on n'a aucun élément, et ça c'est pas la faute de celui qui a pris la photo, mais s'il n'y a aucun élément de paysage, il n'y a rien à quoi se raccrocher dans la photo. Alors, parlons pas d'une photo prise dans l'espace, là, alors il n'y a rien du tout à quoi se raccrocher, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut encore une fois s'agiter. Il y a une époque, ça faisait très savant de prendre une machine, au début des machines de traitement d'image, de faire des tas de fausses couleurs, des tas de bidules. On faisait des pages là-dessus, on disait qu'on avait étudié une photo d'OVNI. On n'était pas plus avancé à l'arrivée qu'au départ, puisqu'on n'avait pas avancé ni dans une identification, ni même dans une caractérisation en disant voilà, c'est de la lumière chaude, pas chaude, c'est un objet rapide, pas rapide. Alors, la plupart, je vous réponds à votre question. Ouais, la plupart des photos, en fait, on reste plutôt planté devant. Alors, ce qui est intéressant, c'est des photos dans lesquelles il se trouve qu'il y a des matières et on peut faire travailler nos neurones pour trouver une stratégie, pour essayer de cerner quelle est la taille possible, quelle est la dimension, quelle est la distance possible, quelle est la vitesse, l'accélération, etc. Mm-hmm. Il y a des cas où on peut le faire et on est ravis de le faire. Mais il y a beaucoup de cas où ça va pas bien loin et on...
Alors comment vous bossez? Parce que le problème, c'est que si vous bossez sur l'analyse des photos, et finalement qu'une fois que vous avez... Parce que finalement, c'est frustrant votre boulot quand même, François, c'est que...
Oui.
Vous êtes devant une photo, vous dites, putain, là c'est vrai, là, je sais pas. Et le problème, oui, c'est qu'à partir de ce moment-là, finalement, ça s'arrête là. Vous avez compris que sur la photo, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas identifier, oui, et ça s'arrête là. C'est ça qui est frustrant.
Bah, c'est frustrant et en même temps, bon, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, ça s'arrête pas là. Si vous voulez,
dans quel cas ça ne s'arrête pas là?
Bah, ça ne s'arrête pas là quand on peut travailler sur la photo. J'ai des quantités d'exemples. Alors, c'est un peu compliqué à la radio, hein, je ne vais pas vous montrer grand chose, mais il y a des quantités de dossiers sur lesquels on est parti de quelque chose de stupéfiant, et comme ça, d'apparence, et où finalement, bon, on a pu trouver. Alors, évidemment, les dossiers sur lesquels on a pu aller très loin, par définition, c'est ceux dans lesquels on a fini par trouver une solution, une explication. Mais c'est quelquefois drôlement pas facile, et ça passe par des chemins assez tortueux. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez faire? Imaginez, prenez le problème à l'envers. Supposons qu'on ait une vraie soucoupe volante qui vient vraiment avec des extraterrestres un jour se balader dans le ciel et que ça fasse une petite lumière parce qu'ils sont très loin, que ça fait une lumière blanche. Quelqu'un prend une photo, il va avoir un rond blanc de pixels saturés parce que la lumière est assez forte sur fond noir. Bon, la vérité, c'est qu'il y a un extraterrestre là devant nous. Bon, on va voir cette photo. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette photo? Bon, je vais essayer, je vais regarder, puis une fois que j'aurai vu que sur cette photo, tous les pixels sont saturés, ils peuvent pas me parler, que j'ai aucun élément de taille auquel me raccrocher, que si ça se trouve, j'ai même pas les données de l'appareil photo, ou les données EXIF correctes qui vont avec.
Finalement, vous me dites que finalement, on est toujours impuissant. C'est-à-dire que comment
on est souvent impuissant. Voilà. Ben, vous savez, les scientifiques ont souvent été dans des tas de domaines impuissants longtemps, mais il faut persévérer et on finit par avancer.
Finalement, en fait, on s'aperçoit qu'on est à la merci de ces êtres, si ce sont des êtres, hein, ou toute autre entité qui viendrait d'ailleurs. Et s'ils ne décident pas, finalement, de se poser sur le champ de Mars, on sera toujours à la traîne parce qu'on aura pris la photo, on l'analysera, on va mettre 6 mois pour dire, OK, finalement, c'était un truc, mais il est déjà parti, il est déjà dans une autre galaxie. Vous imaginez, c'est toujours un peu ça, quoi, le problème. Quoi.
Mais bien sûr, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a des dossiers, puisque vous me parlez de photos, alors là, c'est pour ça que je vais aborder le chapitre fantasme dans un instant. Est-ce qu'il y a des dossiers caché, parce que Xavier Passot, moi je le répète ici, alors Jacques Batenay me disait la dernière fois que c'était pas vrai, mais moi je peux vous le dire, je vais ressortir le passage. Il m'avait dit qu'il n'avait pas de rapport avec l'armée et que l'armée ne lui fournissait pas des observations. Est-ce que vous imaginez, en tout cas vous savez, s'il y a des dossiers cachés de la part de l'armée ou des photos cachées ou des choses voilà, qui ont été, qu'on ne veut pas divulguer au grand public?
Non, enfin, à ma connaissance, non. Je, en tout cas, dans nos pays, bon, ce qui se passe dans d'autres, par définition, s'il existe des services secrets, etc., par définition, ils sont secrets, donc on peut toujours s'agiter, on ne saura jamais ce qu'ils font. Mais pour ce qui est de l'armée et de nos pays, personnellement, je crois vraiment pas ça. Il y a beaucoup de fantasmes qui se baladent, d'abord parce que c'est assez naturel de penser, quand on bute contre un problème qu'on résout pas, qu'il y a des tas de conspirations qui sont derrière nous et qu'ils savent tout, ils nous disent rien. Mais en plus, c'est beaucoup plus prosaïque. On trouve... Bon, je connais bien. J'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai dirigé une société qui travaillait pour les services de renseignement dans des projets classifiés, etc. Donc je connais assez bien les milieux de la DGA, de l'armée de l'air, etc. Évidemment, on rencontre des individus, quelquefois, des qui, à titre personnel, sont vachement intéressés, vont collationner des trucs dans leur armoire, comme on en rencontre chez des gendarmes, comme on en rencontre chez des épiciers ou chez des évêques. Hein. Ça peut intéresser des gens, mais je crois vraiment pas ça. Il y a une époque où j'ai travaillé pour la DGA pendant assez longtemps, ils savaient que je m'intéressais un peu à ce sujet. Bon, ben, je sais que dans ces sphères-là, en tout cas, quand ils se baladaient quoi que ce soit, qui de près ou de loin a un rapport avec les ovnis, on m'envoyait une copie. Bon, je voyais. Alors, c'était quelqu'un qui avait une théorie, c'est quelqu'un qui avait vu quelque chose. En revanche, Xavier Passot vous a dit qu'ils ne fournissent pas de cas et d'observations, mais ils fournissent des renseignements et ils sont actifs dans le fonctionnement du GIPAN. Vous avez d'abord le comité de pilotage qui pilote tout ça et dans lequel il y a des représentants tout à fait représentatifs de l'armée de l'air, entre autres. Mm-hmm. Mais en plus, l'armée de l'air est questionnée fréquemment. On pose des questions sur la possibilité. Quand on a vu, je travaillais encore ces jours-ci sur un dossier, il y a des chances que l'observation concerné un avion de type militaire au cours d'un exercice. On va vérifier. Est-ce que dans cette région-là, à cette époque-là, à cette heure-là, et puis l'armée va répondre oui ou non. Oui, il y avait des exercices, il y avait des choses comme ça. Ou bien, dans certains cas, même, on peut se faire fournir. Enfin, le GEPAN, j'appartiens pas au GEPAN, mais... peut se faire fournir des enregistrements radar primaires, parce que sinon ça n'a pas d'utilité pour les objets inconnus, etc. Donc il y a ce genre d'interaction. L'armée est demandeuse, de toute façon. Quand j'ai fait mon audit, où je suis allé voir les plus grands représentants avec un mandat du CNES, que ce soit le président du CNRS pour la recherche ou du centre d'études atomiques, ou des hauts placés des états-majors de l'armée de l'air, ou des gens de Matignon, ou des gens comme ça, ils ont une motivation. Ça a été évoqué dans vos émissions précédentes au titre du sujet qu'on appelle la surveillance du ciel, ou des abords. Ça fait partie de la mission de l'armée de l'air d'être maître des abords de notre planète, en tout cas au-dessus de notre pays. Donc ils sont preneurs d'informations, mais c'est vrai qu'on les voit pas arriver avec des dossiers. Tiens, on a vu une soucoupe à tel endroit. C'est pas arrivé. Alors là, on tombe sur une difficulté, une énorme difficulté qui est mondiale, c'est le fait que les pilotes, qu'ils soient civils ou militaires d'ailleurs, veuillent bien, lorsqu'ils vivent un Airprox, un Airmis, enfin une rencontre avec quelque chose qu'ils ne comprennent pas, en parler. Le problème, c'est que la plupart du temps, plus cette chose est bizarre, mystérieuse et hors du commun, et moins les gens parlent, parce que ils ont tout à perdre.
Bien sûr. Alors, François Louange, on va marquer une pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. Beaucoup de réactions sur la page Facebook. Continuez à le faire. Bob vous dit toute la vérité. Vous pouvez également, bien sûr, tweeter. Moi dièse, Bob vérité, changez rien. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute sur Radio à Paris 97.8, à Toulouse 93.1 et bien sûr, partout en France, via les réseaux sociaux.
Et bien là, on va écouter un titre qu'on voulait vraiment vous passer. Il s'agit de Blurred Lines, signé Robin Thicke sur Radio et dans Bob vous dit toute la vérité. Everybody get up.
Certains veulent déjà le faire taire.
Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Oui, et n'oubliez pas que tous les dimanches, vous avez droit au best-of. Les trois meilleurs entretiens de la semaine, je vous les rediffuserai entre 21h et minuit. Et puis, tout à l'heure, dans quoi 25 minutes maintenant, c'est François Bourbeau du côté du Québec qui me permettra de vous dire toute la vérité sur Satan.
Direct, podcast, programme, actu. Pour ne rien laisser passer, téléchargez gratuitement l'appli Bob vous dit toute la vérité sur l'App Store.
Ingénieur en aéronautique, il a travaillé à l'Agence Spatiale Européenne, c'est François Louange. François, quel regard l'armée a sur le phénomène OVNI? Est-ce qu'il y a un côté un peu petit garçon ou un peu enfant face à ce phénomène? Parce qu'il y a deux choses. Il y a soit ça n'existe pas, et là... tout va bien, et soit ça existe, et voir que le ciel, que l'armée est censée surveiller et survoler par des choses inexpliquées, ou en tout cas par des engins, c'est finalement, sans pouvoir les intercepter, c'est finalement montrer son manque de moyens.
Absolument, oui, tout à fait. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, que ce soit effectivement des engins ou à la limite toute autre chose qu'on ne maîtrise pas et qui se déplace et qui risque de rentrer en collision avec des avions, c'est un danger et ça rentre pas bien, parce que normalement on est censé maîtriser les abords, c'est sûr. Mais le regard de l'armée, officiellement ils ne travaillent pas sur ce sujet. Ils savent que ce sujet est pris en compte au CNES. Il y a des gens pour qui, comme dans toute la population, tout ça c'est des foutaises et ça n'a pas aucun intérêt. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un sujet intéressant au nom de leur boulot, c'est-à-dire on doit assurer la défense, donc prévoir tous les coups, et quand un avion commence à entrer en course-poursuite avec un phénomène, un objet, c'est quand même un vrai problème. Bon, il y a ceux qui sont aussi, je dirais, d'entrée de jeu, croyants, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais disons, ouais. Et a priori, disent, bon, forcément, il y a des extraterrestres. Enfin, bon, ça, c'est la même proportion que dans la population. Mmh. À titre officiel, je vous dis, à part, à ma connaissance, à part le fait qu'effectivement, il y ait des liens beaucoup plus constructifs de nos jours que c'était le cas au tout début du GEPAN de 77, hein, entre l'armée de l'air et le CNES et son service GEPAN, c'est déjà une chose.
Alors, vous qui êtes, en fait, en recherche de vérité, hein, puisqu'en tout cas, et de compréhension surtout, vous avez lu le rapport Cometa, j'imagine bien. Et qu'est-ce qui vous a. Parce que moi, je l'ai lu, c'était cet été, et j'ai été scotché. Hein, je me dis, mais c'est hallucinant, toutes ces personnes qui sont plutôt, avec une vraie position, généralement pas des illuminés, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a toutes sortes de témoignages et de témoins. Je me dis, mais c'est quand même un truc de dingue, ce rapport. Qu'est-ce qui vous a fait penser à quoi, ce rapport?
Moi, je pense que ce rapport, il a un immense mérite, c'est de présenter un point de vue très particulier, qui est celui de la défense, justement.
Ouais.
Alors, pourquoi? Parce que la défense d'un pays, elle a une mission, c'est de prévoir le plus possible à l'avance tous les coups possibles.
Ouais.
À partir de ce moment-là, on n'est pas du tout obligé, c'est pas comme en science, on n'est pas obligé de se cantonner dans les choses super vérifiées, etc. On examine un certain nombre de possibilités, d'éventualités,
ouais.
Et on essaye de voir dans le pire cas à quoi faut se préparer si ce pire cas devait se produire.
Mmh.
Alors, vu sous cet angle-là, alors là, oui, franchement, le problème des ovnis, des pans, de tout ce qu'on veut, c'est un problème dans lequel on n'a pas l'explication, il y a des gens qui brandissent des explications, c'est des extraterrestres, c'est ceci, c'est cela, bon, peu importe. Mais en tout cas, parmi les possibilités, il semble qu'il puisse y avoir des possibilités qui impliquent une intelligence non amie.
Ouais.
Bon, à partir de ce moment-là, c'est parfaitement dans le rôle de la défense de dire, on ne sait pas si c'est sûr ou pas sûr, mais prévoyons ce cas-là. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Et je trouve que c'est un point de vue qui est intéressant, parce que ça a le mérite de bien annoncer la couleur, quoi. On n'est pas en train de dire, on vous a démontré, parce que personne au monde ne l'a fait, qu'on est visité par des extraterrestres ou quoi que ce soit. On se dit, attention, c'est une possibilité. Il y a quand même des témoignages qui sont un peu affolants, dans certains cas, parce que c'est pas juste des petites lupioles vertes au fond des jardins. Et donc, parmi les explications possibles, puisqu'on n'a pas la vraie, il y en a qui impliquent des hostilités possibles de formes d'intelligence. Alors, il n'est pas idiot qu'on réfléchisse à ce qu'il faudrait faire pour se préparer à ce cas-là.
Est-ce que le fait d'avoir sorti ce rapport Cometa, c'est pas aussi un moyen de dire, le jour où il y aura, si jamais il y a divulgation ou atterrissage, je vous le disais, d'extraterrestres sur le champ de Mars, de dire, voyons, vous avez prévenu, de toute façon, tout le monde, vous pouviez avoir l'information puisqu'elle était à la FNAC.
Oui, enfin bon, ça, on peut dire ça de tout. Hein.
Non mais, moi, je vous pose la question.
Oui.
Hein.
Non, enfin, personnellement, c'est pas ce côté-là que j'ai retenu là-dedans, parce que je vous l'avais bien dit, ça c'est bon, c'est partout, je vous l'avais bien dit. En l'occurrence, je crois que, encore une fois, ce rapport Cometa, bon, pour moi, il n'est pas complètement égal. Enfin, il y a des parties qui sont supérieures à d'autres, mais il y a beaucoup de parties qui sont tout à fait intéressantes et justifiées, qui sont dans cet esprit-là.
Mmh.
Et j'aime bien que les choses soient claires. Là, on annonce la couleur. On dit, voilà, on travaille sur une éventualité qui n'est pas rejetée. Par contre, personne n'a démontré non plus qu'on n'avait pas de visiteurs extraterrestres. Donc, c'est une possibilité.
Mmh.
Et à partir de ce moment-là, bon, bah, on ne va pas dépenser non plus des milliards là-dessus, mais on réfléchit. Comment faudrait-il se comporter? Qu'est-ce qu'il faudrait prévoir?
Finalement, encore une fois, c'est ce que je dis. On a le GEPAN, on a l'armée qui regarde un peu ça du coin de l'œil, mais qui quand même s'y intéresse, parce que finalement, dans ce dossier, on ne peut pas confirmer, on ne peut pas infirmer, quoi. Voilà, c'est toute la problématique, quoi.
Et en plus, il n'y a rien de grave, s'il vous plaît. Si c'était passé, c'est toujours la même chose. Les priorités vont là où est la pression. Bon, il faut bien reconnaître qu'on a eu peur, notamment dans les années 40, 50, etc. Bon, il y avait des grandes trouilles, qu'il y ait des hostilités, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des ceci, cela. Bon, il n'y a jamais eu réellement de grosses menaces ou de choses qui se soient passées, qui soient graves. Donc,
on a quand même eu la bataille de Los Angeles aux États-Unis, quand même.
Oui, d'accord. Mais enfin, bon, ça reste assez. Les populations n'ont pas subi des stress. Enfin, on n'est pas dans le terrorisme ou dans des choses.
On est bien d'accord, mais c'est ça qui est déroutant, c'est qu'il y a quand même 1000 et quelques obus qui ont été envoyés, ils sont jamais retombés. Donc, c'est quand même un peu particulier comme. Ça, c'est. Ça, j'étais pas né en 42, mais ça m'aurait quand même intrigué à Los Angeles. Donc, mais tiens, l'armée, couvre-feu, on entend du bruit, parce que 1340 obus, je crois, balancés dans le ciel, ça fait du bruit, et ça retombe pas. Donc, tiens, il y a un truc bizarre. Alors, soit les Russes sont très très forts, soit à l'époque, c'était les. les Japonais, suite à Pearl Harbor, qui avaient découvert quelque chose. Mmh. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça devait être intriguant et inquiétant.
Ah, ça, c'est sûr qu'il y a eu des choses intrigantes en montant plus loin que 47, ça c'est probable, c'est certain même.
Bon. Alors dites-moi, on va parler des photos, parce que c'est quand même votre truc. Aujourd'hui, est-ce que le numérique, par exemple, apporte tout. Enfin, peut induire en erreur, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que. Voilà, parce qu'aujourd'hui.
Alors, le numérique, il a complètement bouleversé la donne par rapport à, disons, il y a 20 ans.
Ouais.
Sur deux plans très différents. Le premier plan, c'est que c'est la présence des appareils. On était toujours, enfin j'étais le premier à toujours raconter, il y a 10, 20 ans, 30 ans, quand je causais d'OVNI en public, que la photo c'était bien gentil, mais que la probabilité pour qu'il arrive un phénomène OVNI à un instant donné quelque part était quand même extrêmement faible, que la probabilité qu'il y ait un témoin qui soit là et qui en plus ait un appareil photo en état de marche à portée de main était infime.
Ouais.
Qu'en plus, il y ait le sang-froid qui est de la pellicule dedans, qui prenne la photo avec les bons réglages et tout, on était dans le truc presque impossible, ce qui expliquait qu'on n'ait pratiquement aucune photo exploitable.
Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut leur demander de ne pas bouger, parce qu'avec le numérique, c'est toujours flou.
Non, mais alors, de ce point de vue-là, on peut plus dire ça, parce que des appareils photo, il y en a partout, tout le monde a des smartphones, des appareils photo, des téléphones, etc., et passe sa vie à photographier tout ce qui se passe autour de lui. Donc, de ce point de vue-là, on est beaucoup mieux paré. Alors, l'inconvénient dans l'autre sens, si je puis dire, bon, d'abord, c'est une prolifération. Bon, le monde des ovnis, entre guillemets, sur Internet, moi, je préfère pas trop y aller parce qu'on trouve de tout et en particulier, on tombe sur des quantités de trucs qui sont quand même, visiblement, c'est devenu un jeu de société, quoi, des trucages grossiers ou moins grossiers. Si les
Bien sûr, mais vous le disiez, on trouve de tout, donc on doit aussi trouver parfois des choses vraies.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un autre effet qui, lui, est sérieux, qui est la conséquence du fait que les photos numériques ont des caractéristiques quand même assez différentes des photos argentiques. Je parle d'une façon générale, il y a toujours des contre-exemples, mais d'une façon générale, il y a une chose qui change énormément dans la photo numérique, c'est la sensibilité et le fait que, pour des raisons purement techniques, ce qu'on appelle la profondeur de champ des prises de vue est différente du cas argentique. Alors, en deux mots, la profondeur de champ, pour ceux qui ne connaîtraient pas, lorsque vous prenez une photo, il y a une distance minimum à respecter pour que les objets que vous photographiez soient nets, et il peut y avoir une distance maximum aussi. Bon,
bien
au-delà,
sûr.
Ce serait flou, en deçà de la distance minimum, ce serait flou. Il se trouve qu'en numérique, alors ce qui compte surtout, c'est la distance minimum, parce que c'est là que ça se joue. Bon, la distance maximum, en général, est tellement grande que c'est comme si c'était à l'infini. Alors, en numérique, elle est très très proche, cette profondeur de champ. Ce qui fait que l'appareil photo numérique standard va prendre très facilement des tas de petites saloperies qui passent devant l'appareil, qui n'auraient même pas été vues dans une photo prise dans les mêmes conditions en argentique. Alors, si vous ajoutez à ça le fait que, par construction, dans les compacts, vous avez un flash qui se trouve très près de l'objectif, et qui donc peut éclairer des tas de petites poussières, des petits trucs infimes, sans intérêt, qui se baladent tout près de l'objectif, qui donc vont créer des points de lumière, alors ça crée des foultitudes d'objets qu'on voit dans des photos, et ces fameuses photos orphelines, c'est-à-dire le gars prend une photo, il voit rien du tout dans le paysage, puis une fois qu'il regarde sa photo, ah, il y a un petit machin dans un coin, il y a un petit trait noir, il y a un petit point blanc, il y a un petit bidule, ah, alors, selon les croyances, il y a un orbe, il y a je ne sais qui, je ne sais quoi. Et énormément de fois, je serais bien prétentieux si je disais que c'est 100%, mais énormément de fois, il ne s'agit que de choses qui de bonne foi sont pas reconnues par les gens, parce qu'on n'est pas censé tout savoir, et il n'y a pas que la photo dans la vie, mais un oiseau pris en vol, un insecte pris en vol, malheureusement, ça explique, n'en déplaise à ceux qui veulent absolument jamais reconnaître ça, ça explique, parce que c'est très facile à reproduire quand on veut, comme des orbes avec un peu de poussière devant un objectif, ça explique une immense fraction de ce qui nous fait un peu perdre notre temps dans ce domaine-là. Ça a beaucoup changé de ce point de vue-là.
Voilà, ça a beaucoup changé, mais vous, votre méthodologie de travail, en fait, comment vous commencez par essayer de savoir si c'est pas justement un problème de l'appareil? Comment vous travaillez là-dessus?
Oui, alors, j'ajoute juste, j'avais oublié de dire, mais que dans le numérique, il y a quand même une chose essentielle qui est apparue, ce sont les fameuses données métadonnées, dites EXIF, qui sont des données qui sont inscrites dans les photos. Les gens ne le savent pas toujours, mais dans toute photo qu'on prend avec un appareil numérique, il y a des données qui sont gravées dedans et qui donnent les réglages de l'appareil, qui donnent tout un tas de choses, ce qui vont permettre l'analyse beaucoup plus facilement que dans le cas de l'argentique. Alors, comment on fait quand on a une photo? Je dirais que quand on a un document photo, la première chose à faire, c'est d'essayer de voir si cette photo est ce que j'appelle authentique au sens premier, c'est-à-dire si réellement on a pris en photo quelque chose qui se passait devant l'appareil. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de cas où ce qu'on va voir sur une photo ne correspond à rien du tout devant l'objectif. Mm-hmm. Par exemple, parce que il va y avoir, alors, disons, par exemple, parce qu'il va y avoir eu un trucage, une malversation. Bon, il y a quand même des gens, c'est pas si fréquent que ça, mais il y a quand même des gens qui font des faux, surtout pour aller sur Internet. Ouais. Et donc là, évidemment, il n'y avait rien devant l'objectif, puisqu'on a trafiqué les pixels. Ça peut aussi être des phénomènes qui passe inaperçu aux yeux de la personne qui est pas spécialement photographe, de reflets dans les lentilles, de choses comme ça, qui font qu'on va avoir apparaître des taches, des lumières, des choses, alors qu'il n'y avait strictement rien devant. Ça, c'est la première étape. Mm-hmm. La deuxième étape, si on voit quelque chose, ou la première, enfin, ça peut se traiter en même temps, c'est d'essayer évidemment de commencer par trouver une explication simple, parce que vaut mieux commencer par le simple que par le compliqué. Ça s'appelle le rasoir d'Occam, c'est quand même un bon principe. Mm. Alors, on va regarder, bien évidemment, ça, je vais vous réciter tous les trucs habituels, une carte du ciel si c'est la nuit, regarder s'il n'y avait pas une rentrée atmosphérique, regarder naninaner, enfin toutes les explications un petit peu traditionnelles. Bon, si on arrive à un stade où on a établi qu'il y a réellement quelque chose qui a été pris en photo et qui n'est pas explicable comme ça directement, ouais, on commence un peu à entrer dans le vif du sujet. Ouais. Ensuite, il s'agit d'essayer de déterminer des choses sur cet objet ou ce phénomène qu'on a vu, en particulier des notions de taille et de distance. Alors ça, c'est un des très gros problèmes. Il faut bien comprendre qu'une photo, c'est une représentation extrêmement réduite de la vérité. Ce qu'il y a devant votre objectif, c'est un monde à quatre dimensions. Vous avez les trois dimensions du volume et puis le temps, parce que les choses bougent. Bon, quand vous prenez un cliché qui soit très court ou qui soit un temps de pause, peu importe, c'est l'intégration de ces quatre dimensions sur deux. Vous n'avez plus que X, Y, le plan de la photo, et puis l'intégration sur la durée où a été ouvert l'objectif. Ouais. Donc, nécessairement, vous allez perdre beaucoup d'informations, et c'est pour ça qu'avec une seule photo, il est extrêmement difficile de reconstituer tout ce qu'il y avait devant l'objectif. C'est pratiquement, d'ailleurs, impossible. Alors, la plus grande difficulté, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si on est devant une photo où il y a un objet qui était réel, apparemment, dont on ne connaît pas la nature, c'est d'essayer d'en déterminer. La première dimension qu'il faut savoir, c'est sa taille et sa distance de l'appareil. Ouais. Et ça, c'est ça a l'air idiot, mais c'est extrêmement compliqué quand on n'a aucun point de repère, on ne sait pas de quoi on parle.
Ouais, bien sûr.
Alors, il faut savoir, là je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout à la radio, ça serait vraiment fastidieux, mais la première chose que l'on peut mesurer sur une photo, éventuellement entre deux points d'une photo, c'est ce qu'on appelle la taille angulaire, la distance angulaire. Mmh. Parce qu'on peut déterminer l'angle entre l'axe qui va de l'objectif à un objet A à l'axe qui va à l'objet B. Oui. Alors ça, on peut le faire si on a les données de l'appareil, si on a la longueur focale, si on a c'est écrit dans les métadonnées de la photo. Mmh. Bon, une fois qu'on a ça, c'est gentil, mais ça ne nous donne ni la taille ni la distance. En revanche, ça nous donne un ratio, c'est-à-dire qu'on sait que si cet objet faisait telle taille, il serait à telle distance, était à telle distance, et réciproquement. Alors ensuite, comment on va faire pour affiner ça ? Alors là, on va faire jouer toutes les astuces possibles et imaginables dans tous les domaines pour essayer de limiter les distances possibles. Mmh. Exemple, si l'objet il apparaît sur fond de nuage, il est évident qu'il était moins loin que le nuage. S'il apparaît sur fond d'un mur, il était devant le mur. Vous voyez ce genre de comparaison. Ensuite, on peut faire intervenir des choses plus complexes qui sont liées à la physique, la physique de la propagation atmosphérique de la lumière, en fonction des conditions d'éclairage. On peut déterminer en comparant des parties sombres de plusieurs objets si l'objet était plus loin ou plus près. Pourquoi ? Sans parler des équations monumentales qu'il y a derrière ça qui feraient suer tout le monde, mais imaginez que vous avez un cahier noir que vous mettez une après-midi où il y a un temps gris normal quelconque, vous prenez votre cahier noir, vous le mettez devant l'appareil photo, il va apparaître noir. Maintenant, vous le reculez de 100 mètres, il va apparaître gris foncé. Vous le reculez encore, il va apparaître gris un peu plus clair. Et puis quand il sera à un certain nombre de kilomètres, vous le verrez plus du tout parce qu'il apparaîtra de la même couleur que le ciel. Ça, c'est une propriété qu'on va exploiter pour essayer de voir à distance. Vous voyez, c'est ce genre de truc tout à fait besogneux qu'on va faire pour essayer de caractériser l'objet.
On a compris que c'était pas simple. En tout cas, je voudrais signaler à tous ceux qui viennent d'arriver qu'on parle de ces ovnis jusqu'à 23h.
Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit,
répondez à dos.
Et Bob vous dit toute la vérité.
François Louange est avec moi, ingénieur en aéronautique. Il a travaillé à l'Agence spatiale européenne. François, donc, on voit bien que ce qui vous intéresse, c'est aussi donc, l'étude des photos, des vidéos. On a quelque chose que l'on voit de plus en plus dans les témoignages. Ce n'est plus l'objet tôt les boulons, comme on les a longtemps évoqués dans les témoignages, mais plutôt des boules lumineuses. Là encore, ça a changé finalement avec le temps. Et est-ce que pour vous, lorsque ce sont des... on reçoit beaucoup de photos hein, justement de ces boules lumineuses. C'est difficile, ça, encore une fois, à analyser.
Oui et non, je pense que sous boule lumineuse, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où on appelle boule lumineuse, chaque fois qu'on voit une tache d'un caractère circulaire et plutôt blanche dans une photo, ça peut couvrir beaucoup de choses. Bon, ça peut aussi couvrir des phénomènes atmosphériques rares. Dans certains cas, la foudre en boule, ça existe. Bon, des gens peuvent aussi prendre des photos, mais enfin, c'est pas courant. Ça peut être ces fameux petits objets dont je parlais tout à l'heure qui n'en sont pas, qui ne sont que des poussières ou des choses toutes petites devant l'objectif, ce qui est là très facile à mettre en évidence. Il suffit de regarder si les contours de la boule en question sont très flous. Si c'est très flou, c'est très flou. C'est que c'était pas dans la profondeur de champ, donc c'était tout près. On était à quelques centimètres. C'est des poussières. Xavier Passot a fait un jour un truc absolument génial pour ceux qui sont absolument pas réceptifs à cette explication d'une certaine catégorie de petites taches blanches. Il a pris une photo avec un appareil dit stéréoscopique, c'est-à-dire que vous avez un appareil qui est composé de deux appareils collés l'un à côté de l'autre et qui prennent simultanément la photo.
Ouais.
Donc ça permet ensuite de reconstituer une vision stéréoscopique avec, vous savez, les lunettes vert et rouge pour voir le relief. Alors l'avantage, c'est que la photo, on la prend exactement au même moment et ça prend le même paysage. Donc il a pris des photos comme ça dans une pièce où il y avait un peu de poussière, on avait remué la poussière. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans la photo qui en ressort, il y a bien des orbes au sens de ce que je dis, hein, ceux qui sont, je me permets pas de réduire tous les orbes à ça, je suis pas spécialiste d'orbes, mais il y avait plein d'orbes sur chacune des deux photos. Le problème, c'est qu'elles étaient pas au même endroit. Or, ça a été pris, les deux photos montraient exactement la même pièce, mais ça démontre simplement que la source de ces orbes était tout près de chacun des deux objectifs, donc était différente. À partir de 10 cm, on voyait la même chose, mais on voyait des orbes différentes sur les deux. Donc il y a beaucoup de confusion avec des explications simples. Maintenant, il peut y avoir des choses plus complexes. Il y a aussi pas mal de choses qui rentrent dans la catégorie des reflets. Là, je vous donne les choses qui ont des explications banales. Hein. Faut pas me prendre pour un debunker qui veut absolument tout expliquer, mais j'explique qu'il y a une grande fraction de ce que l'on voit qui trouve quand même des explications. Et le mieux, c'est quand même de les annoncer, de les trouver, parce que
si vous dites
à trouver des phénomènes un petit peu rares, il faut éliminer tous les autres.
Non, mais ce qui est important, c'est de dire que c'est comme quand on parle de d'entités, de phénomènes paranormaux aussi. Et Yves Lignon me le disait, il ne faut pas mettre tout sur le dos du paranormal.
Absolument.
Et effectivement, et je vais vous dire une chose, même si je suis très intéressé par le phénomène OVNI, je ne cherche que la vérité. Donc, et la vérité passe par justement l'étude et des gens comme vous qui êtes là pour chercher. Et plus on démontrera les choses, plus le jour où il y aura une vraie manifestation, plus on la prendra au sérieux. C'est pour ça que, voilà, alors on peut hurler, on peut crier, quoi qu'il en soit, je vous le dis, ça s'appelle Bob vous dit toute la vérité. Et non, Bob vous fait croire n'importe quoi. Alors, on va être obligé, malheureusement, François Longe, de se quitter parce qu'on arrive au terme de cette discussion. Si demain, vous aviez sous les yeux une photo d'un objet volant non identifié, mais véritablement pour vous, mais genre tôt les boulons, à qui, voilà, mais vraiment, vous vous dites ça, c'est une vraie photo, c'est pas fake, à qui la donneriez-vous en premier?
Ah, alors là, vous me posez une question. Bon, je commencerai par échanger avec les gens avec qui je travaille. Là, je travaille actuellement depuis 6 mois, c'est sur un site dédié à ça qui s'appelle IPACO, et avec quelqu'un que vous connaissez peut-être sans doute, qui s'appelle dans les forums ufologiques 11 August, qui est un très bon analyste d'images. Je travaille aussi avec un collègue qui est un ancien officier d'enseignement de la Royal Air Force, un anglais qui vit en Afrique. Bon, évidemment que je commencerai par partager ça avec ces gens-là, ou avec Jacques Vallée, ou enfin des gens que je connais qui sont sur le sujet. Bon, ensuite, je sais pas du tout vous dire, parce qu'à ce moment-là, ça, si s'il y avait vraiment un problème de conscience à savoir à qui en parler, ça voudrait dire qu'il n'y a pas qu'une photo. Parce que je rappelle une chose, c'est qu'une photo, en aucun cas et jamais, jamais ne sera la preuve de quoi que ce soit elle toute seule. C'est impossible. C'était déjà vrai il y a 30 ans quand je disais ça. Il y en a qui me conspuaient, mais n'empêche que j'ai pu démontrer que c'était vrai, puisqu'on peut toujours fabriquer. Mais alors aujourd'hui, avec l'apparition, depuis pas mal de temps déjà, des PC, de Photoshop et tout ça, c'est-à-dire que chaque pixel d'une photo, vous pouvez en faire ce que vous voulez au moment où vous voulez. Quand vous savez que dans les smartphones, il y a une commande qui dit appuyez sur ça pour introduire un ovni dans votre photo, c'est lequel, c'est comme ça dans le menu, une photo sera jamais la preuve de quelque chose. Donc, pour qu'il y ait un problème de conscience comme ce que vous dites, il faut qu'il y ait un témoignage, il faut qu'il, ou d'autres enregistrements, ou un certain nombre de photos, ou un radar, et à ce moment-là, effectivement, on entre dans quelque chose qui en fonction de ce qu'on aura vu, s'il y a une marque d'hostilité ou autre, peut appeler à aller voir telle ou telle personne, j'en sais rien, ça.
Bon, dans tous les cas, j'espère que vous nous en ferez part de vos photos. François Louange, merci mille fois d'avoir été avec nous, et à très bientôt, j'espère, pour continuer cette discussion.
Ok.
Au revoir, bon week-end.
Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur radofm.fr.
Dans un instant, François Bourbeau, il a lui aussi travaillé longtemps sur le dossier OVNI, puisqu'il a été mon homologue de l'autre côté de l'Atlantique, très loin, au Québec. Il reviendra ici pour parler dans quelques instants du mal, en fait, et de deux histoires assez incroyables auxquelles il a été confronté là-bas dans le pays des Caribous. Okay. Donc, on verra ça. François Bourbeau dans un instant. Avant cela, eh bien, ça a beaucoup réagi, mon Elliot, encore une fois. Mais je le dis, Bob vous dit toute la vérité. Donc que ça vous plaise ou non, parfois j'invite pas tous ceux qui sont complètement acquis à la cause, mais ceux qui nous font réfléchir et qui permettent d'avoir un autre regard, c'est important.
Il y a au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord ce soir, et ça c'est rare, c'est Bob Président.
Mais oui, je ne serais pas dans la merde. Vous ne seriez pas dans la merde. Déjà avec les gens intelligents, on est mal barré.
Mais alors, président paranormal.
Voilà. En tout cas, 22h57, Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute?
Là on va écouter un classique qui va nous ramener dans le début des années 2000, c'est sur Ado.
Bah oui,
sur Ado. Bah oui, dans Bob vous dit toute la vérité, les destins.
Sur Ado.
Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux.
En podcast sur adofm.fr
et en best-of le dimanche sur Ado.
21h minuit.